France Culture.
Question d'islam par Ali Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'Averroès, encore une fois, mais nous n'épuiserons jamais le sujet. Nous parlons d'Averroès avec un abécédaire et j'ai grand plaisir de recevoir le professeur Ali Ben Mahlouf. Ali Ben Mahlouf, bonjour.
Bonjour. C'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie, merci de nous faire l'amitié de venir, de nous donner de votre temps, de nous présenter, vous qui êtes un averroïste accompli, vous êtes aussi un historien des sciences, et puis vous avez aussi une connaissance de Montaigne. Je me rappelle d'une émission où nous avons parlé de la conversation comme un art. Et donc, vous vous intéressez à ces grands hommes, à ces esprits humains. Et vous êtes professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique à Rabat. Vous êtes directeur du Centre de philosophie arabe classique et de philosophie des sciences. Vous maîtrisez aussi l'œuvre de Frege, de Bertrand Russell. Et vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Quand vous êtes auteur de nombreux ouvrages, je citerai à titre d'exemple « L'humanité des autres ». Comment étiez-vous, cher Ali Ben Mahlouf, amené à cet abécédaire ? Un abécédaire, c'est mettre en exergue, suivant l'alphabet ABC, des éléments d'un sujet quelconque, là en l'espèce, plutôt la pensée averroïste.
Oui, merci de votre accueil, de votre invitation. L'idée de l'abécédaire, elle a été quand même un peu mise en place, on va dire, par Gilles Deleuze. Et l'abécédaire de Gilles Deleuze a finalement lancé cette idée qu'il fallait peut-être donner sa voix à un penseur pour... Bon, là, c'était lui-même qui faisait lui-même son abécédaire. Mais les éditions de l'Observatoire ont initié cette collection qui est toujours l'abécédaire 2. Et là, je me suis pris au jeu parce que finalement, donner la voix à un auteur que l'on cite très souvent, ça m'a semblé une chose qui valait la peine. C'est-à-dire qu'on puisse le lire, lui, dans le texte. Donc c'est, comme vous avez pu voir, il y a une introduction générale. Et puis après, comme vous l'avez dit, selon l'alphabet, on décline quelques notions, quelques concepts, quelques mafahim. Et nous y voilà installés confortablement avec les mots d'Averroès lui-même.
Oui, et qui se sont des entrées importantes et qui éclairent d'un jour nouveau la pensée, pour certains complexes, pour d'autres riches, du commentateur. Par antonomase, on l'appelle ainsi, même si certains étaient plutôt des anti-averroïstes, mais d'autres reconnaissaient qu'il était le commentateur par excellence de l'œuvre aristotélicienne.
Mais, merci, permettez-moi de rebondir sur deux éléments de ce que vous venez de dire. Riche et complexe, effectivement, Averroès. En cette année 2026, nous fêtons les 900 années de sa naissance, donc c'est une commémoration. Et pourquoi une si longue durée de quelqu'un que l'on cite encore aujourd'hui ? Parce que il a utilisé des termes techniques. Et moi, je suis de ceux qui pensent que, vous avez employé le mot riche et complexe, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas sacrifier cette technicité, qu'il faut restituer l'auteur selon sa technicité. Donc, il y a des entrées techniques, mais c'est par la technicité qu'il a duré. Et quand il n'y a pas cette technicité, ben, ma foi, ça se délite un peu. Donc, il y a effectivement des entrées un peu techniques, mais c'est pour cela qu'il vit 900 ans après. Et s'il n'y avait pas cette technicité, il n'y aurait pas cette durée. Et puis, vous avez parlé du commentaire. Commentateur, le commentaire, c'est une notion très importante dans ce monde arabe classique. Je ne dis pas médiéval, je dis classique, parce que c'est la période classique importante de ce monde arabo-musulman. Et ils avaient cela en partage avec les Chinois. et les Indiens de l'Inde, toute une tradition qui consiste à commenter des textes. Et l'écriture nouvelle, créatrice, se fait par le commentaire. Cette forme a été un petit peu dépréciée à la Renaissance européenne, mais véritablement, quand on commente, on ne copie pas de manière pâle, on crée quelque chose qui n'a pas encore été dit.
Nous avons le temps de venir et de connaître davantage l'homme, sa trajectoire de vie, des éléments biographiques. Mais en parlant du commentaire, il y a ces trois catégories, sans vouloir les typologiser. On a l'épitomé, le compendium et la paraphrasis. Si je devais les dire en arabe, on a l'abrégé, c'est-à-dire le jam. Hein. On a le commentaire moyen. Pour le compendium, c'est le talkhis, et une reformulation intégrale du texte complet qui est sharh. C'est un grand commentaire en réalité.
Oui, alors effectivement, ces trois formes correspondaient à des publics différents. Et donc, quand vous faites une synthèse, un abrégé, comme vous avez dit, eh bien, on s'adresse à des gens qui vont prendre le nécessaire de quelque chose. D'ailleurs, il y a plusieurs titres qui s'intitulent « Le nécessaire de Ad-Darurifi ». Et là, c'est avoir des clartés de tout, comme aurait dit Molière. Et le talkhis, le commentaire, c'est déjà suivre pas à pas la parole du maître, là par exemple Aristote, et dénouer quelques difficultés en les commentant, en faisant une détente argumentative. Et puis, comme vous l'avez dit, le charh ou le tafsir, c'est véritablement pour des PhD students, pour des doctorants qui veulent non seulement avoir des clartés de tout, mais suivre les différents commentaires qui ont déjà eu lieu. Là, en l'occurrence, comme il est assez tardif au XIIe siècle, il y a les commentaires d'Al-Farabi, les commentaires d'Avicenne. C'est pourquoi je me suis permis d'avoir des entrées Al-Farabi, Avicenne, Al-Ghazali, bien sûr.
Qu'ils les encensent ou qu'ils soient d'accord avec eux ou qu'ils les critiquent, à juste raison, vous avez eu ces entrées-là pour montrer un peu le lien et son regard critique sur leur œuvre et les points sur lesquels ils consonnaient à leurs travaux.
Oui, c'est l'importance des guillemets, finalement. Il dit, je dis. Aristote dit, je dis. Et finalement, cette pluralité de voix est tellement importante parce que vous lisez avec, je veux dire, un confort intellectuel. Vous ne vous demandez jamais, mais qui parle ? C'est très explicite. Il dit, je dis. Et finalement, on voit aussi l'écart entre le texte premier et puis le commentaire qui est proposé. Et je trouve que utiliser les guillemets, c'est justement ne jamais confondre l'usage et la mention. Je mentionne un texte, après j'en fais usage à ma manière. Je vous avoue que j'ai été assez conquis par cette méthode du commentaire et je vais pas me comparer à Averroès, ça serait stupide. Mais quand je cite, je sens comment je peux construire un écart entre ce qui a été dit, vous avez cité Montaigne tout à l'heure, et ce que je peux en dire, moi, en 2020 et quelques, oui.
Ali Ben Makhlouf, faisons connaissance davantage, je le dis surtout pour nos amis auditeurs, ceux qui sont habitués l'ont appris au cours des émissions, mais pour d'autres, il faut bien connaître l'homme. Il serait né un 14 avril 1126. Il est mort ou serait mort dans la nuit du 10 au 11 décembre 1198. Le lieu de naissance est Cordoue. Le lieu du décès, c'est Marrakech. Il sera réinhumé à Cordoue trois mois plus tard, ou presque. Et dans quel contexte ? Il y a déjà une charnière et un passage entre deux dynasties, deux empires même pour certains.
Oui.
Et peut-être encore un point sur lequel vous pourrez revenir, c'est que même sa propre famille, il est le petit-fils d'un autre Ibn Rushd, une sorte d'Averroès l'Ancien.
Oui.
Qui était un juriste connu, auteur d'une forme de prolégomène qui aplanisse les difficultés.
C'est cela.
Al-Muqaddimat al-Mumahidat.
Exactement. Écoutez, je crois qu'il est très important de comprendre les auteurs comme on les comprenait de leur temps aussi. Bien sûr, on se les approprie bien après. Et là, vous avez dit quelque chose de très important, c'est qu'il est juriste et que c'est une famille de juristes. Son grand-père, très connu pour ce livre que vous avez mentionné, lui-même, pour ses contemporains, il n'était pas un philosophe. Pour ses contemporains, il était vraiment juriste et médecin. Et puis, bon, il faisait cette pratique de la philosophie qui a été, grâce aux traductions, grâce à une tradition, transmission également dans le monde arabo-musulman, finalement valorisée un peu postérieurement, à savoir Averroès, philosophe. Mais il était médecin, médecin du calife Almohade. La période, comme vous l'avez mentionné, était assez troublée tout de même. Donc il a lui-même eu un moment maille à partir, au sens où on l'a, comment dirais-je, dénoncé, si je puis dire, au calife en disant « Oh là là, mais ce monsieur attaque la religion ». En réalité, ce n'était pas la religion qu'il attaquait, il attaquait certaines formes de théologie. Et toute cette philosophie d'Averroès, en même temps que celle de Maïmonide, c'est d'ailleurs intéressant de les comparer, ils étaient presque contemporains, dans la tradition hébraïque comme dans la tradition musulmane, c'est parfois il y a une critique de la théologie pour un retour à la religion. Et très rares sont des personnes comme Maïmonide, comme Averroès, qui ont accès directement au texte et ils sont autorisés par leur communauté religieuse à être faqih, à ne pas se contenter uniquement des madahib, des principes de l'école. L'école malikite, par exemple, vous et moi et le commun des personnes, en général, ils doivent se contenter des principes de l'école. Et quand on est faqih, c'est qu'on a véritablement...
Faqih, en gros, un jurisconsulte et quelqu'un qui pénètre et qui interprète aussi la norme religieuse.
Exactement. Alors, c'est autorisé à très peu de gens. La pensée haute intellectuelle est une denrée très rare. Et donc, effectivement, dans son cas, il pouvait directement lire le texte religieux et l'interpréter sans passer par les interprétations des théologiens. Et d'ailleurs, il était un peu, comment dirais-je, oui, parfois critique, virulent, parce qu'il disait, mais ils interprètent des choses sur une base qui n'existe pas. Par exemple, quand il a voulu défendre l'idée que le monde était ancien et non pas créé, il dit « Mais pourquoi les théologiens disent que Dieu crée de rien ? Où ont-ils vu qu'il y a le mot « rien » dans le texte ? Nulle part dans le texte religieux, dans le texte sacré, le Coran aussi bien que
les hadiths. » Il n'y a pas d'ex nihilo dans le texte révélé.
Voilà.
Ali ben Makhlouf, peut-être encore un point, parce que votre avis nous éclairera tous là-dessus. Comment se fait-il qu'une dynastie aussi rigoriste que celle des Almohades, oui, et que le sultan, le calife Abou Yaqub Yusuf, ait pu confier à Averroès en 1166, sur présentation du philosophe Ibn Tufayl, son propre maître, le fait de commenter l'œuvre du Stagirite d'Aristote?
Vous avez raison, ça nous semble tout à fait curieux qu'un prince s'occupe de questions métaphysiques. Et j'aurais une petite hypothèse, à savoir que ces questions métaphysiques qui nous semblent véritablement devoir être consacrées à des spécialistes, à l'époque c'était la culture commune. Et cette idée, finalement, j'oserais ce terme, d'interculturalité, il y a l'islam qui présente la création et il y a précisément cette pensée aristotélicienne qui dit que le monde est éternel. Eh bien, essayons de débrouiller la chose. Et en réalité, c'était tout à fait une question, j'allais dire, oui, tout à fait commune, presque populaire, de pouvoir discuter du monde créé ou incréé. Et c'était vital, très important. Si la religion a totalement structuré le champ de la réflexion et qu'elle parle de création, quelle place peut-on faire à Aristote? Donc, il lui donne la mission de commenter Aristote. Et là, on voit encore l'importance du commentaire. Et ma foi, On a d'abord, par le regard du XXIe siècle, une surprise à se dire comment un calife ordonne des discussions métaphysiques et de débrouiller ces discussions métaphysiques autour de la création ou de l'éternité du monde. Mais pour l'époque, c'était une question comme aujourd'hui parler du cours du dollar ou du pétrole.
Bien. Et votre hypothèse nécessitera, parce que c'en est une au sens fort du terme, d'être soutenue, étayée et expliquée davantage. Peut-être encore un mot sur cette disgrâce qui le frappera vers 1195, où il sera banni à Lucena, quelque temps après une sorte de réhabilitation, quelque temps avant sa mort, en 1198.
Oui, c'est cela. Et bien là encore, c'est quelque chose de malheureusement commun. C'est-à-dire qu'Al-Razali, qui vraiment ne défendait pas la même optique que lui un siècle avant, avait aussi vu ses œuvres brûler. Donc c'était tombé en disgrâce, était quelque chose qui venait très très vite et qui pouvait, comme vous l'avez dit, être temporaire, transitoire, et la personne est réhabilitée. Donc, c'était pas un fait totalement exceptionnel. Et puis bon, on parle de cette dynastie rigoriste, elle avait quand même fait une discrimination à l'égard des Juifs d'Andalousie. Et vous savez, quand la discrimination touche une partie de la population, elle touche tout le monde. Elle n'est jamais vraiment ciblée.
Et là, elle l'était davantage, enfin, les considérations politiques qui ont amené à la disgrâce d'Averroès, et aussi ce fanatisme qui a fait en sorte que quelqu'un comme Maïmonide, vous avez parlé de deux savants contemporains à 9 ans près concernant leur date de naissance et 6 ans concernant leur décès, ils étaient véritablement contemporains.
Oui.
Et Maïmonide lui-même, une fois parti au Caire, a pris connaissance de l'œuvre de son aîné.
Oui, oui, tout à fait. Un peu tardivement, en disant que les œuvres lui sont arrivées au Caire très tardivement. Son guide des perplexes avait déjà été rédigé et il a dit je les reçois tardivement pour pouvoir en faire état. Mais je vois que c'est la grande tradition logique qui avait été initiée par Al-Farabi, parce que Ibn Rushd, Averroès, dont nous parlons aujourd'hui, comme Al-Farabi, c'était des très grands logiciens, et Maïmonide le reconnaît. Maïmonide, oui, ils étaient contemporains, mais ils ne se sont pas connus, curieusement. Et il y a aussi, effectivement, le fait que Maïmonide ait quitté l'Andalousie pour d'abord Fès, avant d'aller avec sa famille au Caire, où comme beaucoup de gens le savent déjà, il fut médecin du prince.
Du souverain.
Voilà.
Ali Ben Makhlouf, nous l'avons dit, donc il sera en gros réhabilité quelque temps avant sa mort. Il sera réinhumé en février 1199. Et une anecdote veut que lorsqu'on voyait la dépouille mortelle sur dans le bas d'un chameau, contrebalancé par les livres, oui, du maître, le métaphysicien, le mystique Ibn Arabi s'est écrié: voilà le maître, voilà son œuvre, plût au ciel que ce qu'il nous a enseigné eût été utile.
Oui, c'est cela. Il y a un respect de la transmission, même si là, précisément, ils n'avaient pas non plus la même orientation philosophique, l'un beaucoup plus dans le mystique. Et Ibn Rushd, il n'était pas contre la mystique, mais il disait: les mystiques s'arrêtent un peu en chemin, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les conditions de l'étude, à savoir l'ascèse, mais une fois qu'on a été dans l'ascèse, commence le travail de l'intellect. Et ce travail de l'intellect, ils considèrent que les mystiques l'ont pas parachevé comme il se doit. Donc c'est de la bonne controverse entre eux. Et finalement, l'anecdote que vous relevez est un bel hommage à Averroès.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous parlons d'Averroès, de son œuvre et d'un abécédaire voulu, mis en exergue par le professeur Ali Ben Makhlouf pour prendre quelques notions clés, des entrées principales pour pénétrer davantage la pensée averroïste. Ali Ben Makhlouf est professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique à Rabat, directeur du Centre de philosophie arabe classique et de philosophie des sciences, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et auteur de nombreux ouvrages d'une grande palette et d'un éclectisme réel et dont le dernier parle de l'humanité des autres. Pour cette deuxième partie, cher Ali Ben Makhlouf, parlons un peu du traité décisif, qui est une fatwa en réalité, c'est une réponse, comme quoi l'exercice philosophique, au regard de la loi religieuse, est un exercice nécessaire, c'est une nécessité, et il se fonde sur un passage coranique.
C'est cela, et c'est un point très important. L'important, c'est quoi ? C'est que quand il y a ce message religieux reçu, comment faire place à une pensée profane ? La philosophie est une pensée profane, ce n'est pas une pensée religieuse. Mais comme la structuration du champ réflexif est religieuse, cette structuration est religieuse, il faut trouver sa place. Alors la place va être faite, comme d'ailleurs dans plusieurs philosophies européennes, on peut parler de Kant, on peut parler de Hegel, c'est qu'il y a des motifs religieux qui sont après traduits en termes profanes. Et ce que fait Averroès, il ne fait pas que de la traduction des motifs religieux en motifs profanes, il fait une justification du profane par le religieux, c'est une justification au sens juridique, c'est-à-dire aller chercher dans le texte sacré tout ce qui va dans le sens du déploiement de l'intellect, on dit la raison, je préfère dire l'intellect, du déploiement de l'intellect. Et donc, développer, on parle de la figure de l'intellectuel, on peut dire qu'Averroès est véritablement une figure de l'intellectuel au sens strict du terme, c'est-à-dire vivre selon l'intellect. Et il se dit, vivre selon l'intellect, c'est effectivement une pensée profane, parce que c'est aller vers l'arithmétique, la métaphysique, la médecine, toutes choses qui ne sont pas directement religieuses, mais précisément, elles sont toutes sous un programme religieux, parce que la religion, c'est d'aller précisément vers le savoir. Et il fait cette justification, comme vous l'avez si bien dit, dans une fatwa. Le mot fatwa, au sens strict, c'est véritablement un avis consultatif, donc on consulte un sage, un faqih, on en a parlé tout à l'heure, et ce faqih donne son avis. Ce n'est pas un avis comme le donne le juge, il n'a pas une valeur décisionnelle, mais il a une valeur consultative.
Ni exécutoire.
Exactement, voilà. Mais c'est une consultation, et il déploie dans cette consultation comment, un, les motifs religieux sont susceptibles d'être traduits en motifs profanes. Deux, comment les motifs profanes trouvent leur justification dans les motifs religieux.
Oui, c'est un responsum, pluriel responsa, chez nos amis auteurs latins. Et là, il se fonde donc sur un passage coranique. De nos jours, on aurait dit, oui, mais il a peut-être extrait hors contexte tel ou tel passage coranique. Mais là, il s'agit du verset 127 de la sourate des abeilles, la sourate 16, où il dit en substance, appel au sentier, dans le sentier, au sentier de ton Seigneur, par la sagesse, par une belle exhortation, et discute avec eux de la meilleure des façons.
Exactement, et là, il dit, mais ce passage coranique, il correspond, on va faire une correspondance ou des équivalents notionnels, aux trois méthodes aristotéliciennes, la méthode démonstrative, al-hikma, c'est-à-dire la sagesse, c'est le plus haut savoir, donc c'est la démonstration, la rhétorique, l'exhortation, le conseil, tout le monde sait que c'est de la rhétorique, au sens où la rhétorique s'occupe de persuasion, quand on conseille une personne, on cherche à la persuader, et la dialectique, troisième méthode après la méthode démonstrative et la méthode rhétorique, la dialectique, c'est-à-dire la discussion avec la manière de pondérer les arguments, a et non a. Et cette pondération est un exercice mental qui est tout à fait important. C'est d'ailleurs, Aristote disait que c'est par la dialectique qu'on arrive au premier principe de la science. Par exemple, le principe de non-contradiction, ne pas se contredire, il est obtenu dialectiquement. Et ajoute Averroès, le Coran dit « discute de la bonne façon » parce que par moments, on discutaille, on ne discute pas de la bonne façon. La dialectique doit être véritablement orientée vers l'exercice de l'esprit qui doit déboucher sur la position des premiers principes de la science et non pas dans la polémique terminologique. Vous avez dit, j'ai dit, on s'entend pas, on hausse le ton, on se met en colère. Alors cette dialectique-là, bien sûr, est totalement écartée.
Bien. Et donc, comme là aussi, ce n'est pas une manière de, je ne sais pas si le néologisme existe, de catégoriser ou typologiser les consciences humaines et les esprits, il y a quand même ceux qui sont sensibles à la démonstration, Ahl al-Burhan, ces gens qui, finalement, parce que ça frappe leur esprit et l'intellect, il y a ceux qui sont sensibles à la rhétorique, ce seraient les théologiens, et puis ceux qui sont sensibles à la dialectique ou à un discours homilétique, voire ce que les Grecs appellent un discours parénétique de la parénèse, parce qu'il faut les édifier, parfois par ce qui leur est agréable et parfois parce qu'il leur fait peur.
Oui, alors effectivement, trois types de personnes, vous avez dit, j'ajouterais que c'est parfois la même personne. C'est-à-dire la même personne qui peut avoir ce moment d'abstraction et de contention de l'esprit telle qu'elle arrive à démontrer quelque chose de l'algèbre. Après, elle se détend face à la télévision et là, elle est totalement dans la rhétorique. Et puis, dialectique, elle peut faire une petite conversation agréable. Le problème, c'est que les gens qui vivent selon l'intellect, eux, se consacrent majoritairement, pas exclusivement, parce que c'est pas possible, majoritairement à la science. Et il y a les théologiens qui, selon Averroès, favorisent l'esprit dialectique, al-mudabdaboun, c'est d'ailleurs une onomatopée, c'est des gens qui sont toujours en train de chicaner un peu. Et puis, bon, la rhétorique est très utile dans la cité, parce que c'est par elle qu'on a véritablement un consensus pour vivre ensemble, respecter le feu rouge, respecter le feu vert, respecter le stop. Les signes de la société, les signes en circulation supposent une persuasion immédiate. Je n'ai pas à réfléchir pour le stop, je m'arrête. La rhétorique n'est pas simplement quelque chose à dévaloriser. Et le conseil, l'exhortation, ma foi, nous avons tous besoin d'exemples et de modèles dans notre vie, quand nous éduquons nos enfants, de leur donner des exemples et des modèles. Ça fait partie de l'éducation, donc la rhétorique est aussi à prendre en bon terme. Mais j'insiste peut-être sur les gens du savoir, rasikhuna fil ilm, les gens de sciences profondes, c'est véritablement vraiment des happy few. Il faut véritablement avoir accès à l'abstraction. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Très peu de gens ont accès à la grande abstraction. Vous avez cité Bertrand Russell, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Il disait le mathématicien se repose sur des symboles parce qu'il a besoin justement de ces traces-là. Et peut-être c'est une fois tous les 6 mois qu'il arrive par une grande contention de l'esprit à se dire en 2 minutes ce qu'il y a derrière les symboles. Mais ça fatigue beaucoup l'esprit, donc heureusement qu'on a des symboles et heureusement qu'on a des détentes argumentatives.
Ali Ben Makhlouf, vous avez évoqué ceux qui sont enracinés dans une science profonde, ceux qui sont sensibles à la démonstration, sans élitisme aucun dans ma question, ne serait-il pas cela même qu'un autre verset coranique, le verset 7 de la sourate 3, la sourate de la famille d'Imran, les mentionne dans un passage qui lui-même est amphibologique ou ambigu, alors qu'il parle des versets équivoques dans certains et d'autres qui sont clairs.
Oui, c'est un très très joli passage où Averroès reprend l'idée que dans le Coran, il y a des énoncés univoques qui ne sont pas sujets à interprétation, et il y a des énoncés équivoques qui sont sujets à interprétation, et puis ces sujets, seul Dieu, je cite le passage coranique que vous mentionnez, seul Dieu en a la science, et les gens de science profonde disent, nous y croyons. Et il y a toute une, vous l'avez mentionné, toute une interprétation pour dire, mais est-ce que seul Dieu en a la science et on fait un arrêt, et les gens de science profonde disent, nous y croyons, ces énoncés équivoques, ou bien, véritablement, les gens de science profonde partagent avec Dieu la science des énoncés obscurs. Surtout, moi, ce qui m'intéresse dans ce passage-là, c'est que ces énoncés ambigus, ces énoncés équivoques, eh bien, il faut avoir un savoir pour les interpréter. On ne peut pas se lancer un peu à l'aveugle, sans filet. Et ce savoir, c'est d'abord une maîtrise très forte des tropes de la langue, c'est-à-dire la métaphore, la métonymie, le particulier, l'universel, et avoir une bonne connaissance linguistique, c'est un prérequis, et on doit y aller avec beaucoup de précautions, c'est-à-dire que cette interprétation, alors très souvent on dit, ah mais Averroès était, vous l'avez mentionné, élitiste, il disait que tout le monde ne peut pas aller dans cette interprétation. Non, tous ceux qui font l'effort de la grande maîtrise linguistique, de la grande maîtrise juridique, de la grande maîtrise exégétique des textes, ils peuvent y aller, sinon, eh bien, ma foi, on peut s'arrêter à la croyance sans accompagner cette croyance d'une intelligibilité qui est de toute façon très difficile, sinon même hasardeuse, si on n'a pas les moyens linguistiques, la connaissance des particules des versets, est-ce que c'est véritablement sur, de, à côté, au-dessus, en dessous, attention, min, ala, et c'est à cela qu'il fait mention. Pour ça, dans cet abécédaire, dans l'entrée interprétation, j'insiste sur ce passage que je cite, puisque tout l'abécédaire, c'est Averroès qui parle tel qu'en lui-même, si je puis dire. J'insiste sur ce passage du discours décisif où il dit « On n'interprète que ceux qui ont une excellente connaissance linguistique. »
Bien. Pour nos amis auditeurs, je dirais peut-être le passage coranique qui est fondamental, presque in extenso, et on verra que, en se fondant dessus, Averroès dira, lorsqu'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées dans leur sens obvi et la démonstration philosophique, en gros, c'est à la révélation de céder le pas devant la démonstration philosophique, parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle.
Alors, ce passage est très important. Il ne dit pas qu'il y a une contradiction entre le texte coranique et la démonstration. Il dit qu'il y a une divergence. Mukhalafa, Aouhtilef. Et justement, les éditions de l'Observatoire m'ont demandé de tout retraduire. Et j'en ai profité pour, paix à son âme, Marc Geoffroy, qui avait traduit le traité décisif, il avait parlé de contradiction.
Donc en réalité, c'est une divergence.
C'est une divergence. Quand il y a une divergence entre le texte coranique et ce que dit la philosophie, et notamment les sciences démonstratives, quand il y a une divergence, eh bien, il faut avoir une compétence linguistique pour pouvoir débrouiller les choses et dissiper cette divergence. Mais contradiction, non, puisque vous l'avez très bien dit en le citant, le vrai ne contredit pas le vrai. Et on a eu malheureusement, mais ça c'est le propre d'une transmission qui se fait, comme disait Pierre Hadot, avec des glissements de sens, des contresens qui peuvent aller jusqu'au contresens. On a parlé d'une double vérité, comme vous savez, dès le XIIIe siècle, dans le monde latin, qu'Averroès défendait une double vérité, vérité de la raison, vérité de la foi. Non, le vrai ne contredit pas le vrai. Il y a une seule vérité, mais on ne l'approche pas de la même manière. On peut l'approcher démonstrativement, on peut l'approcher par une persuasion immédiate rhétorique, on peut l'approcher par une conversation dialectique qui ne va pas jusqu'à la colère, le désarroi et les fâcheries.
Et le verset en question dit en substance, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets explicites et clairs. Sont ceux-là la base ou la mère du livre, c'est comme ça qu'on le comprend. Et d'autres versets ambigus, ceux qui ont dans leur cœur une inclination pour l'égarement, mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît véritablement l'interprétation, à part Dieu et ceux qui sont bien enracinés dans la science, d'aucun ajoute dans la science profonde, disant « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Enfin, une des traductions possibles.
Ah oui, oui, oui. Je crois que c'était très utile de rappeler complètement ce texte-là, que les auditrices et les auditeurs peuvent aller relire. Vous avez donné la référence. Et effectivement, toute cette difficulté de se dire, est-ce que Dieu seul, ou, parce qu'on dit en français, Dieu en interprétant, et les hommes, il n'y a pas le « et », est-ce qu'on fait une pause?
Mettant une virgule, alors qu'il n'y avait pas du temps, il n'y avait même pas les points diacritiques, il n'y avait pas de ponctuation.
Voilà.
Et donc, ça reste ouvert à la compréhension et à l'interprétation.
Mais vous savez, les questions, les grandes questions, heureusement qu'elles restent ouvertes. Parce que prétendre clore une question, c'est incarcérer le sens, ça ne va pas.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, avec le professeur Ali Ben Makhlouf, nous parlons d'Averroès, de sa pensée. Nous verrons ensemble tout à l'heure quelques entrées clés pour pénétrer la pensée averroïste. Ali Ben Makhlouf est professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique à Rabat.
Et à Ben Guérir.
Et à Ben Guérir aussi, mais je crois que vous enseignez uniquement à Rabat ou à Ben Guérir?
Plutôt
oui,
à Ben Guérir.
Du côté de Marrakech.
Mais c'est 50... la même université avec deux sites, mais je suis plutôt à Ben Guérir.
Et c'est à une cinquantaine de kilomètres de Marrakech.
Oui, exactement.
Et le campus est très beau. Et
magnifique. Magnifique.
C'est vrai. Donc, vous enseignez plutôt sur le site de Ben Guérir et vous êtes directeur du Centre de philosophie arabe classique et de philosophie des sciences. Vous êtes aussi, Ali Ben Makhlouf, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Là, nous parlons de votre abécédaire d'Averroès, mais un de vos derniers ouvrages est aussi « L'humanité des autres ». Prenons quelques clés, quelques entrées. D'emblée, j'ai envie de commencer par le commentaire moyen de la République de Platon par Averroès, parce qu'on y dit qu'il y a une forme de féminisme qui apparaît. Donc, dans l'entrée femme, oui. Nous verrons qu'il y a ce qui est d'une réelle modernité par rapport à nos jours, un plaidoyer pour qu'elle s'occupe des fonctions qui sont dévolues uniquement aux hommes, mais il n'y a aucune raison pour que ce soit le cas.
Oui, effectivement, c'est encore les vertus du commentaire, c'est-à-dire qu'en suivant Platon, il fait advenir cette thématique qu'effectivement aujourd'hui est labellisée féministe, puisque effectivement, je lis, ainsi la nature des femmes et des hommes est de même sorte, et ce qui est de même sorte est conduit à exercer dans la cité la même activité. Alors effectivement,
nous sommes dans le XIIe siècle.
Nous sommes dans le XIIe siècle, et d'ailleurs, vous savez, en Andalousie, son prédécesseur Ibn Hazm disait « Jusqu'à 15 ans, je n'ai été nourri que par les femmes, intellectuellement parlant, c'est elles qui m'ont appris le Coran, c'est elles qui m'ont appris la poésie, c'est elles qui m'ont appris à lire et à écrire. » Ça veut dire qu'il y avait effectivement non seulement la reprise de la parole de Platon, qui parle effectivement des femmes qui partagent avec les hommes les mêmes activités, mais dans l'Andalousie...
Y compris, pardon, Ali Ben Mahlouf, je vous ai interrompu dans votre élan, le fait d'aller au gymnase, le gymnasium, pour s'adonner aussi aux activités physiques, on aurait dit de nos jours, aux activités sportives.
Oui, oui, tout à fait. Elles partagent dans la cité les mêmes activités, quelle que soit cette activité. Et dans l'Andalousie, il y avait un écho, puisque les jeunes hommes, dans le giron des femmes, apprenaient, ils suivaient pas leur mère à la cuisine, si je puis dire, non. Et c'était livre à la main qu'ils apprenaient à lire, écrire les poésies et le Coran, témoignage d'Ibn Hazm dans son très beau roman philosophique.
Le collier de la colombe.
Le collier de la colombe.
De l'amant et de l'aimé, traduit notamment et pas uniquement par notre ami le professeur Gabriel Martinez-Cro.
Donc, le Hamama, oui.
En 1992. Ali Ben Mahlouf...
Donc voilà, l'entrée femme est importante. Oui.
Elle est importante. Et Ibn Arabi, que nous avons cité tout à l'heure, avait comme maîtresse, au sens de professeur, deux femmes, dont une particulièrement qui lui a prodigué et dispensé le savoir qui fut le sien et qui l'a par la suite capitalisé.
Il y a beaucoup de figures dans le monde arabo-musulman, Rabi al-Adawi, la mystique, Basri, quand il parlait avec elle sur les collines de Basra, il lui disait, mais en parlant avec Rabi al, on oublie qui est homme, qui est femme.
Oui, alors, d'autres entrées,
Permettez-moi de suggérer la première. Action.
Allons-y, je vous en prie.
Action, je l'aime bien parce que... j'aime bien ce qu'il dit, parce qu'il montre que la délibération est importante pour l'action. Donc, contre ceux qui avaient une vision très nécessitariste, que tout est décidé... depuis toujours, donc la délibération est importante, mais en même temps, il veut sauver l'idée qu'il y a une transcendance du bien, et qu'il y a véritablement une transcendance de l'objectivité du bien, et donc dans ce cas-là, il y a un bien qui s'impose à moi. Et il critique les Mu'tazilites qui avaient fait véritablement du choix le « là » de l'action humaine, et en leur disant non, il y a véritablement un bien transcendant qui s'impose à moi, tout ne vient pas de ma volonté. Et de l'autre côté, les jabristes, en leur disant attention, le moment de la délibération est très important. Et tenir ensemble la délibération et la transcendance du bien, je trouve ça véritablement quelque chose de très important, parce que il est aujourd'hui encore dans la philosophie analytique, le moment de la délibération est considéré comme un moment beaucoup plus important que le choix immédiat que nous faisons, parce qu'entre deux actions, que se passe-t-il ? Eh bien, on délibère. Et ce moment de la délibération, par moment, il est comme masqué par le choix immédiat que nous faisons de telle ou telle action. Mais entre deux actions, entre deux choix, eh bien, nous délibérons. Et arrêtons-nous à ce moment de délibération.
Alors, vous avez évoqué les jabristes, simplement pour nos amis auditeurs, sont ceux qui pensent qu'il y a une sorte de contrainte ou comment dit-on en grec les nécessitaristes,
oui, la tradition mégarique, oui.
Mais ça, il le dit dans son ouvrage Le dévoilement des méthodes d'épreuve relatives aux dogmes de la religion. Kashful manahij al-adilla fi aqaid al-milla, donc pour donner son nom en langue arabe. Et alors, est-ce que vous avez encore vous-même une autre entrée qui vous plaise?
Alors, ou... ben écoutez, le plaisir, par exemple.
Ah, plaisir, oui, aussi. Oui.
Alors, plaisir...
Pour marquer non seulement l'hédonisme réel ou supposé, à la fois de l'homme et de la civilisation islamique, mais là, il a aussi son importance.
Oui, parce que, alors, je choisis cette entrée, parce que aussi, elle est déclinée en plusieurs plaisirs, plaisir d'actes sensibles, plaisir de l'intellect, plaisir d'apprendre. Plaisir d'apprendre, c'est très important parce que, en réalité, on apprend et c'est important quand les gens se posent des questions sur l'ennui qui guette nos jeunes gens à l'école, etc. Non, il y a un plaisir d'apprendre et ce plaisir d'apprendre, c'est, ça va très loin. C'est à partir du plaisir d'apprendre que l'on comprend que toutes nos actions sont accompagnées d'une forme de plaisir. L'éducation va jusque-là. Toutes nos actions, je veux dire, effectivement, orientées vers le bien, etc. Il y a le plaisir de l'intellect. C'est magnifique parce que le plaisir de l'intellect, il n'a pas de contraire. Tous les plaisirs sensibles, ils ont au contraire. C'est le plaisir suivi de la peine, suivi du chagrin, la perte de quelqu'un. On aime beaucoup cette personne et malheureusement, on a la peine de l'avoir perdue. Ça, c'est les plaisirs sensibles. Le plaisir de l'intellect, il ne meurt jamais, il ne périt jamais. C'est ce plaisir qui vous donne une joie continue. Et pouvoir avoir une joie continue, c'est vivre de la meilleure façon, parce que ce n'est pas une joie qui est suivie de la tristesse. Donc c'est pour ça que j'ai pris plaisir à faire l'entrée plaisir.
Oui, et là, pour le plaisir de l'intellect, tout le passage est extrait de son grand commentaire de la métaphysique.
Voilà.
Et tout à fait au début de plaisir, il y a cette belle phrase qui est « la satiété que donne la compréhension est plaisante ». C'est-à-dire que lorsqu'on... on comprend,
ah oui.
Il y a une joie indicible intérieure.
C'est comme une fête. Quand vous comprenez une idée, c'est comme une fête. Vous êtes tellement satisfait que vous n'avez besoin de rien d'autre.
Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'à juste raison, vous avez pris trois de ses prédécesseurs. Peut-être dans l'ordre, on a Al-Farabi, l'Al-Farabius des Latins, Avicenne et Al-Ghazali et l'Al-Ghazal. Qu'est-ce que vous pourriez dire, puisque nous nous approchons du terme de l'émission,
déjà
pour chacun d'eux? Oui, avec vous, la conversation est si agréable. Que
merci.
Nous...
avec vous aussi. Ben écoutez, Al-Farabi, commençons par Al-Farabi. Al-Farabi, il avait, dans cette Bagdad du Xe siècle, développé l'art de la logique, justement, pour reprendre vos mots, en lien avec la conversation. C'est-à-dire que, comme dans le califat al-Muhad, où ce calife demande à Averroès d'aplanir les difficultés autour du monde créé et du monde incréé, eh bien, à l'époque d'Al-Farabi, il y avait des conversations savantes. Elles vont être réinventées dans l'Europe du XVIIIe siècle, mais là, il y avait des conversations savantes, et la logique s'invitait dans les conversations, un peu à la manière de Lewis Carroll, qui invite la conversation dans des éléments ludiques. Donc, Al-Farabi avait pris en charge les ouvrages d'Aristote sur la logique pour savoir ce que c'est que concevoir, il y a l'entrée conception, pour savoir ce que c'est que juger, il y a l'entrée jugement, pour savoir ce que c'est que définir, il y a l'entrée définition, pour savoir ce que c'est que raisonner, le syllogisme, il est décliné sous plusieurs formes. Alors effectivement...
Le syllogisme théorique et le syllogisme juridique.
Voilà, le syllogisme relatif à la connaissance et le syllogisme relatif à l'action, qu'elle soit de l'ordre de l'éthique ou de l'ordre du droit. Et tout ça, quand même, lui vient d'Al-Farabi. C'est pour ça que, finalement, Al-Farabi est très important. Et Al-Razali, c'est quand même celui avec lequel il discute et dispute pour construire sa propre philosophie. Et par moments, il est sévère avec lui, selon l'œuvre. Par moments, il est plus doux avec lui, si je puis dire. Mais il me semble que la belle discussion entre eux à travers les siècles, c'est les orientations philosophiques. C'est un peu, pour ceux qui ont les références plus européennes, Descartes, Pascal, est-ce qu'il faut pluraliser les voies de la connaissance en ajoutant le cœur, comme le fait Al-Razali, ou est-ce qu'il faut tout orienter sur l'intellect, comme Averroès ? Il ne s'agit pas de décider, il s'agit de voir jusqu'où l'on va en prenant chacune des voies et toutes les perspectives qu'elles ouvrent. Al-Razali était un grand sceptique. Averroès, pour lui, le scepticisme devait déboucher sur le savoir, alors qu'Al-Razali, le scepticisme, ma foi, si le doute continue à nous accompagner, c'est pas plus mal. Surtout le doute à l'égard de la philosophie profane, parce que son ancrage était plus religieux, mais c'était aussi un très grand philosophe.
Et si vous me permettez, Ali Ben Makhlouf, c'est moi qui dirai un mot sur Avicenne, mais sous votre contrôle. Il le critiquait comme métaphysicien et philosophe, mais il avait une grande déférence pour le médecin et pour le poème médical de l'auteur du canon de la médecine. Nous arrivons au terme de l'émission. Merci infiniment. Merci de nous avoir vous-même édifiés par vos propos et en ayant choisi ces entrées dans l'ouvrage l'abécédaire d'Averroès. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam et vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster, la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Bourchon. La prise de son était assurée aujourd'hui par Tahal Bourkhlifa et la réalisation est assumée par Daphné Leblond.